do. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault, Grégoire Di Fior et la prise de son est assurée ce soir par Nicolas Slimani, réalisation Daniel Finot et je n'oublie pas Camille André qui est là pendant deux semaines avec nous. La dispute change d'horaire mais ne change pas de principe, réunir les meilleurs critiques, ça vous concerne, vous qui êtes là ce soir, pour passer au crible toute l'actualité culturelle. Nous souhaitons aussi faire entendre les opinions et commentaires de celles et ceux qui nous écoutent, d'être pendant cette heure d'émission leur porte-parole. Alors on commence, mais on l'appelle chaque soir. Commentaires sur la page Facebook La Dispute FC en amont de l'émission. Et puis nous ouvrons chaque soir à 19h un fil Twitter pour que vous puissiez aussi réagir. Je le rappellerai chaque soir de cette semaine, parce que c'est la semaine de rentrée, chaque soir sa discipline, mais avec quelques changements par rapport aux six premières saisons de La Dispute. Lundi reste le jour du spectacle vivant, mardi devient le jour de la musique, jeudi sera le jour consacré aux livres et aux bandes dessinées, vendredi devient le jour du cinéma, mercredi reste le jour des arts plastiques. Nouveauté également la présence de trois critiques chaque soir autour de moi pour parler de trois sujets. Présence également plus discrète ce soir, celle de Boris Pinault qui surveille le fil Twitter pour peut-être faire entendre vos commentaires. Pour cette première émission Art Plastique de la saison, les critiques présentes et présents ce soir autour de moi sont Yassine Youssi, Anaël Pijat et Frédéric Bonnet. À notre sommaire, d'abord un retour sur les rencontres d'Arles avec un focus sur Annie Leibovitz, The Early Years et Paz Errázuriz, une poétique de l'humain. Nous parlerons aussi de On aime l'art, un choix d'Éric Mézine dans la collection d'Agnès B à la collection Lambert à Avignon. Ça ne change pas, il y a toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute en mettant le cap au sud. Paris est sous la pluie, donc on se réfugie vers Arles et Avignon tout à l'heure. Arles d'abord, avec toujours la même difficulté quand on veut parler d'une manifestation aussi importante que les rencontres photos d'Arles qui se poursuivent jusqu'au 24 septembre. Alors il faut faire des choix drastiques en se concentrant en l'occurrence sur deux expositions. Peut-être que... Oui, je vous connais, vous allez prendre des petits chemins de traverse pour citer 27 noms à la seconde, pour ce qui concerne Yasmine aussi. On parlera
Pourquoi
tout à l'heure de... Parce que c'est comme... On va voir, je vais déclencher mon chrono. On parlera tout à l'heure de l'exposition consacrée à Paz Errázuriz. Et on commence par Annie Leibovitz, The Early Years, présentée à la Fondation Luma dans le Parc des Ateliers. C'est la première exposition du programme d'archives vivantes de la Fondation Luma, dirigée par Mathieu Humery.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. It's like we both are falling
it'll be just like starting over.
Pourquoi John Lennon ? Pas pour seulement pour faire plaisir à Sophie Rosemont, mais pour commencer par situer, on va dire, Annie Leibovitz dans le paysage, même si on sait qu'elle a fait ses armes au magazine Rolling Stone, puis qu'elle a poursuivi à Vanity Fair. Elle est la dernière personne à avoir photographié John Lennon, c'était le jour même de son assassinat. On sait qu'elle était Annie Leibovitz, la compagne de Susan Sontag, mais peut-être un premier tour de table là-dessus. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, le travail d'Annie Leibovitz, Frédéric Bonnet, pour commencer?
Mais justement, cette exposition, ce qu'elle montre, c'est la première Annie Leibovitz. Ça nous rappelle qu'il y en a deux. Et que c'est la première partie de sa carrière. Pour le public actuel, probablement la majorité des spectateurs, je pense, auront découvert une Annie Leibovitz qu'ils ne connaissaient pas forcément, hormis ce portrait qui n'a pas contribué qu'un peu à sa célébrité, hein, de John Lennon et Yoko Ono. Mais c'est vrai que l'exposition déroule toute la partie années 70, fin des années 60 jusqu'au début des années 80.
C'est 68-83, ouais, vraiment, les bornes, me semble-t-il.
Et ça révèle un personnage assez intéressant et je dirais même très dichotomique en fait par rapport à ce qu'il est devenu après, par rapport à ce que sa pratique est devenue après.
Alors c'est quoi la pratique après, celle que, selon Frédéric Bonnet, je crois qu'il a assez raison, qui est la plus connue, on va dire, Annaëlle Pijat?
C'est ce portrait qu'elle met en œuvre à partir du moment où elle quitte le magazine Rolling Stones pour rentrer à Vanity Fair, où elle change de format, elle passe à un format carré, et sa photographie devient beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus mise en scène. Et ce sont vraiment des portraits dans lesquels on imagine volontiers les séances de pose interminables et les débauches de matériel dont on sait qu'elle les a toujours utilisées pour faire ces photographies-là. Effectivement, c'est très différent de la partie reportage et de l'espèce de plongée dans les années 70 qu'on voit notamment dans le morceau de bravoure qui concerne la tournée des Rolling Stones en 75.
Yasmine, aussi, vous partagez ce premier regard sur
absolument.
C'est
ce à quoi on assiste en fait dans cette exposition, c'est à la naissance d'une photographe qui à ses débuts utilise la photo comme un journal intime, comme un carnet de notes, en photographiant absolument tout ce qui l'entoure, son quotidien, ses parents quand elle va en vacances avec eux, puis petit à petit elle travaille pour Rolling Stone et là elle va photographier les coulisses, les reportages, elle est à ce moment-là complètement embarquée avec, embedded hein, comme on dit, des photographes qui sont, des photojournalistes qui sont avec les armées, c'est exactement ça. Elle photographie comme si c'était des copains. Et puis, petit à petit, elle va commencer à prendre les gens qui la fascinent le plus. On le voit, hein, par exemple, Henri Cartier-Bresson, ça tient encore du reportage. Et puis, petit à petit, elle va se focaliser sur les célébrités et les mettre en scène. Mais ce qui est passionnant, moi, je trouve, dans cette exposition, c'est que non seulement ça montre la naissance d'une photographe, mais ça montre aussi le changement d'un monde. Comment on passe de l'art comme une contre-culture à l'art comme une industrie du spectacle. Et Annie Leibovitz va participer à ça. Une contre-culture parce qu'au début, elle est avec tous ces gens. Elle est avec des militants des Black Panthers, si ma mémoire est bonne. Elle est avec des artistes, des musiciens qui font partie de la contre-culture, enfin, c'est des gens qui sont comme elle. Et puis, petit à petit, on la voit qui commence par des portraits, c'est encore des mises en scène assez discrètes. Par exemple, les frères Bellucci, qui sont eux aussi encore dans la contre-culture à ce moment-là.
Ils ne sont pas encore les Blues Brothers.
Qui s'appellent encore les Blues Brothers. Alors ça, c'est assez facile. Elle va leur peindre le visage en bleu et elle va les photographier comme ça. Et puis après, on va la voir faire petit à petit un autre portrait de Lily Tomlin et Richard Pryor qu'elle va photographier ensemble. Et puis Arnold Schwarzenegger, au début, elle le fait en reportage comme ça parce que c'est Monsieur Univers. Alors on le voit tout en muscles, tout en fesses, à l'air, avec les médecins.
Et tout en slip.
Non, il est nu.
Ah oui, il y a ces photos-là aussi, pardon. Ah oui, il y a ces photos nues.
Ah bah oui, ça se remarque quand même.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Bon, bah d'accord, on n'a pas regardé les mêmes choses dans les photos. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, Yasmine?
Et donc vous avez ça. Et puis, petit à petit, c'est Mohamed Ali. Là, on est dans la couleur, quelque chose de beaucoup plus institutionnel. Et on va être dans les mises en scène où là, finalement, les stars deviennent inaccessibles. Alors, on est dans l'industrie du spectacle. Il faut vendre du rêve, il faut vendre tout ça. C'était pas du tout ça. Sa première partie, c'était pas du tout ça. C'est ses premiers travaux. Et là, c'est ce qu'on voit.
Alors, ce qu'on voit, c'est une chose, mais après, il y a la façon dont on le voit, parce que cette exposition, donc, qui dure jusqu'au 24 septembre, je le rappelle, les premières années d'Annie Leibovitz, 3000 tirages, j'ai pas compté, mais j'aurais pu.
3 et 5000, non?
J'ai même vu 8000. Hein,
bon, 153 000, ce serait à peu près pareil, parce que c'est présenté de façon pour le moins spartiate et à mon sens totalement roborative. Vraiment, c'est une exposition que j'ai pris aucun ou presque plaisir à arpenter. Je recommande très vivement le catalogue qui permet de regarder un peu plus posément. Comment est-ce que vous avez vécu l'exposition, Anaël Pijat ?
Mais je pense que ça va même. Je m'interrogeais sur la question de la scénographie et en fait, je pense que ça va même au-delà de la question de la scénographie.
Des plaques de bois en forme rectangle.
Oui, mais je disais ça dans le sens où apparemment, ce sont des choix, des vrais choix qui ont été faits en accord avec le studio.
On ose espérer que ce sont des choix. Mais on peut les discuter, vous en conviendrez.
Et on les discute volontiers. Ouais. Ce sont des plaques de bois sur lesquelles l'idée c'est de reproduire l'atelier, c'est de donner une idée de l'atelier. Il y a des cordelettes qui sont tendues sur chacun des panneaux de bois, il y en a 8, ce sont des lignes de 8 cordelettes sur lesquelles les photos sont
épinglées. Vous n'avez pas compté, Frédéric ?
J'ai pas compté.
Comme jusqu'à 8, vous auriez pu, non ? 8000, je ne dis pas, mais 8.
C'est un manque de rigueur de votre part,
Les images sont épinglées, punaisées, pincées. Elles se succèdent en ligne, un peu comme sur une partition. Elles sont tour à tour assemblées dans des rectangles compacts. Et puis de temps en temps,
très compact,
il y a des moments où il y a des compositions un peu plus savantes, mais dont on se demande un peu la raison d'être. Et en fait, je trouve que cette mise en scène fait littéralement barrage à la façon dont on peut voir les photographies. Je me faisais même la réflexion en sortant de l'exposition qu'il était assez difficile de se souvenir des images vraiment. Alors évidemment, il y a des formats qui changent, c'est-à-dire que les icônes sont montrées dans des formats un peu plus grands que les autres photographies, isolées. Un peu isolées parfois. Mais néanmoins, c'est une scénographie qui rend l'exposition un peu invisible. Et en fait, ça rejoint une question que je trouve très intéressante, c'est cette histoire des archives. Puisque, comme vous le disiez, le projet des archives vivantes de la Fondation Luma. Alors, les archives, c'est le sujet à la mode. Tout le monde s'intéresse aux archives. Il y a même des artistes qui font, et on l'a évoqué dans l'émission à plusieurs reprises, qui font des archives leur matière même. On peut penser par exemple à Fountain Archive de Sada Nafif qui s'intéresse à la documentation de la fontaine de Marcel Duchamp et qui montre les archives comme vraiment matériaux de son œuvre. Ici, c'est un peu différent parce que c'est une exposition. Enfin, on ne sait pas très bien finalement comment on regarde ces photographies. Les cartels sont totalement illisible parce qu'ils sont écrits en blanc sur une planche de plexi,
il y a même
sur un fond
qui
beige.
Qui renvoie un numéro, mais des fois il n'y a pas de numéro, donc débrouillez-vous.
Ah bah on ne sait pas très bien comment consulter cette exposition, si on consulte des archives, si on regarde des images.
Vous n'êtes pas d'accord, Yacine Youssi ?
Non, je ne suis pas d'accord. Moi justement, j'ai aimé cette espèce de magma. Parce que c'est un magma qu'on vous présente et qu'il est bien dit que ce sont des archives vivantes. Alors, comme le dit Anaël très justement, les archives vivantes sont très à la mode, tout le monde en parle, on en donne. Comment on montre ça ? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous êtes plongé dans ce magma. C'est très dense. Effectivement, il y a plein de photos que vous oublierez en sortant, mais vous êtes immergé dans la vie de quelqu'un, dans le quotidien de quelqu'un, et le quotidien, c'est ça. Et il en reste quelque chose,
C'est un quotidien quand même très organisé. Pour un visiteur, c'est pas le quotidien, c'est pas l'atelier. Moi, je crois pas du tout
Oui, mais vous êtes obligé de l'organiser pour que vous puissiez quand même y voir quelque chose. Mais on vous met dedans dans cette immersion, quelque chose qui vous submerge. C'est vraiment. J'ai aimé cette impression et je trouvais que ça répondait. On appelait ça archive vivante et je trouvais que ça y répondait. C'était vraiment. C'était une manière de répondre à la question.
Frédéric Bonnet.
Ben après la thèse et l'antithèse, je ne vais quand même pas tenter la synthèse.
Mais comptez les cordelettes d'abord.
La prochaine fois, je compte les cordelettes. Mais moi, en fait, je suis assez partagé sur cette question-là. prime abord, j'ai trouvé cette scénographie assez insupportable parce que, en effet, on s'y retrouve pas, qu'il n'y a pas de légende, que
qu'elle a trop.
On cherche, voilà, c'est pas lisible. Même les textes de début de salle sont absolument illisibles, en blanc sur une vitre. Voilà. Donc, première gare, j'ai trouvé ça pas confortable du tout. Mais après, on se dit quand même que qu'il y ait 3000 ou 5000 ou 8000, finalement, peu importe, cliché, oui. On peut quand même pas légender tout ça, parce que c'est pas possible.
Non, bien sûr.
Et que, finalement, j'ai trouvé ça pas si mal, parce que on est dans le flot d'une époque. Mmh. Et que ce travail-là d'Annie Leibovitz, de cette époque-là, c'est véritablement une odyssée américaine. La voiture est omniprésente, le déplacement est omniprésent, la vitesse est omniprésente. C'est une chronique visuelle à toute allure d'une époque avec des images qui défilent. Et au final, effectivement, on ne se souviendra pas de toutes les images. De toute façon, encore une fois, on ne va pas pouvoir imprimer 3000 images à la sortie de l'exposition. Mais je trouve que, en tant qu'immersion dans une époque auprès d'un témoin privilégié qui a quand même été à côté, pas de tout ce qui s'est passé, mais de beaucoup d'événements importants de l'histoire américaine de cette époque-là, avec ce regard quand même aussi assez singulier d'Annie Leibovitz qui, tout en étant au cœur de l'événement, a quand même toujours réussi à se placer à côté. Parce que l'à côté, on sait que c'est quand même ce qui fournit généralement le meilleur point de vue. Donc, oui, j'ai trouvé finalement cette exposition très riche et intéressante.
Là, je vous l'accorde complètement, mais c'est vrai que du coup, il y en a tellement que... Enfin, je parle de ce que j'ai vécu, moi, en tant que visiteur, que j'allais vers les visages que je connaissais, ce qui est un peu idiot, parce que j'aurais aimé plutôt aller vers ceux que je connaissais.
C'est un réflexe.
Non, mais c'est un réflexe. Quand on est devant 5, 3, 8 000 clichés, on a tendance à aller vers ce qu'on reconnaît, ce qui est pour moi pas absolument le but d'une exposition et d'une visite, c'est plutôt aller vers l'inconnu. Annaëlle Pigeard.
Oui, j'ai fait un peu la même expérience, c'est-à-dire que ça tourne, on commence par regarder des formes, et puis là, finalement, ça soulignait encore plus le côté...
Je remets pas du tout en question le talent et le,
non, c'est pas la question, mais
le travail. Hein, ouais, je parle vraiment de la forme de l'exposition là quand je dis ça.
Est-ce que je rebondis sur ce que disait Frédéric sur la position à côté et qui me fait penser à un autre aspect de l'œuvre qu'on voit dans l'exposition parce que quand même on voit des choses. Il y a en fait sur cette scénographie il y a quelque chose d'un peu grisant en fait dans le fait de tomber dans ce bain d'images. Je considère quand même que c'est difficilement lisible, mais il y a une griserie qui opère. Mais il y a aussi une chose qui apparaît. C'est la manière dont Annie Leibovitz regarde des hommes politiques et qui se mêle et en fait qu'elle photographie comme elle photographie les Rolling Stones par exemple, c'est-à-dire toujours dans des sortes de backstage, dans des moments de repos, dans des moments de pause. Et il y a cette photographie extraordinaire du départ de Nixon où elle et ça c'est
la démission de Richard Nixon. Les journalistes photographes sont là pour attendre le départ de la Maison Blanche.
Et donc,
elle reste un peu plus longtemps.
Elle reste un peu plus longtemps, et là, elle fait cette photo extraordinaire dans laquelle des soldats avec des gants blancs roulent le tapis rouge, emportés qu'ils sont par le vent de l'hélicoptère.
Qui décolle à peine.
Exactement.
C'est
cette photo-là qui reste. Et je trouve que le mélange de cette scène musicale et dans ces images et de la vie politique de l'Amérique qui se prolonge, parce qu'après, elle montre aussi Carter et la jeune garde de Carter, et puis ensuite, elle photographie même la reine d'Angleterre. Mais ce mélange des deux dimensions politiques et artistiques est assez intéressant, je trouve.
Juste pour dire sur l'accrochage, parmi les auditeurs qui nous suivent là sur Twitter, il y a quand même beaucoup qui partagent leur peu de goût pour cet accrochage, Boris Pinon.
Oui, tout à fait. Et Elodie Bensoussan précise par ailleurs que ce serait Annie Leibovitz elle-même qui a installé l'exposition. L'idée étant de reproduire son propre atelier.
Oui, bon, c'est ce que
j'ai vu. À part les commentaires sur le rire de Yasmine que les gens aiment ou détestent, hein, c'est dépend, mais là, c'est les gens qui aiment qui écrivent, donc ça va, c'est bien. Mais c'est vrai que la scénographie, c'est pas terrible, un peu froide. Il y en a d'autres qui disent que c'est carrément à vomir et roboratif. Il y a un problème véritablement avec cet accrochage. Vous vouliez intervenir, Yasmine?
Oui, je voulais intervenir par rapport à la Fondation Luma, dont c'est la première grande exposition, en tout cas pour moi, la première exposition réussie. On partage pas le même avis sur l'accrochage. Je voudrais juste planter le décor pour les auditeurs qui n'y sont pas allés pendant et qui dit bien l'importance que prend la Fondation Luma à Arles. avant, enfin pendant des années, les ateliers, ça a été un lieu phare des rencontres, vraiment. Et là, pour la première fois, j'ai eu le sentiment que vous arrivez, vous êtes accueillis par la Fondation Luma, vous êtes obligé de passer par l'entrée de la Fondation Luma pour rejoindre les autres ateliers. Alors, les autres ateliers ont tous été rénovés par la Fondation Luma. Et c'est tant mieux parce que ça donne des lieux d'exposition dignes de ce nom. Je ne pense pas qu'on aurait pu, que la Fondation du Buffet aurait prêté ses œuvres ou que le Centre Pompidou. Mais ça marque bien aussi la place que Luma est en train de prendre à Arles. Il y a la Tour Guéry, étrange, on se demande ce que ça va donner.
C'est pas fini,
voilà. On verra. Mais voilà, je...
La place, c'est aussi une OPA. On peut l'appeler comme ça aussi.
On peut l'appeler comme ça, mais ça m'a marqué. C'était la première fois que ça m'a autant marqué. C'est pour ça que je me permettais de le souligner.
Vous parlez du passage obligé, Yasmine, par cette exposition, dans les commentaires avant l'émission ce matin.
Non, pas par l'exposition, par l'atelier.
Oui,
et
mais quelqu'un disait, Annie Leibovitz, je suis pas allée parce que le pass Arles est tellement cher et qu'il faut payer en plus pour Annie Leibovitz. Voilà. C'était un peu trop cher pour cette audition.
Ouais. C'est dommage que ça n'ait pas été vraiment idiot même que la Fondation Luma, qui est quand même une fondation, un grand mécène, ne soit pas mis d'accord avec les rencontres pour.
Ce sont des problèmes très concrets qui touchent beaucoup de visiteurs. Anaëlle, très rapidement.
Tout sur autre chose, c'est l'avenir, parce que donc la Fondation Luma a acheté ses archives d'Annie Leibovitz et la suite.
On ne sait pas combien.
En tout cas, on sait qu'elle était endettée à hauteur de 25 millions de dollars.
Ah, absolument. Vous savez des trucs, vous. Hein.
Absolument. Bon. Ça a été très relayé dans la presse
américaine.
C'est
moins cher que les footballeurs en même temps.
Mais la question qu'on peut se poser est de savoir la formule qu'ils vont inventer pour la suite. Puisqu'il va y avoir une suite d'expositions de ces archives, et je suis très curieuse de ce que ça peut donner, sachant que Annie Leibovitz a elle-même beaucoup commenté son travail, elle a écrit sur ses photographies dans de nombreux livres, et que sa parole est assez formidable sur ses propres photos.
Il y a un très court texte, d'ailleurs, dans le catalogue co-édité par ta chaîne et la Fondation Luma, un très court texte d'Annie Leibovitz, mais... C'est assez beau. Vous voulez dire un dernier mot avec Bonnet sur Annie Leibovitz? Moi, j'ai envie qu'on passe à Passer à Souris, mais c'est comme vous voulez.
On peut passer à Passer à Souris.
On arrête là pour Annie Leibovitz. C'est visible jusqu'au 24 septembre. On l'aura compris, la Fondation Luma, je le répète encore une fois, Arles. Donc, à suivre dans la dispute Passer à Souris. Et puis, nous parlerons de la collection Agnès B. telle qu'elle est montrée par certains choix à la collection Lambert à Avignon. Donc si vous avez des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
La deuxième exposition à notre affiche ce soir, donc toujours dans le cadre des rencontres photos d'Arles, mais incluse dans le pass, c'est celle qui est consacrée à Pass Errasouris, sous le titre Une poétique de l'humain, une exposition coproduite avec le Jeu de Paume et la Fondation Mapfrey. Pour cette photographe chilienne, née en 1944, le commissaire de l'exposition est Juan Vicente Aliaga.
Miedosas manadas vestidas de terror y asombro. Todo hueco es aire, toda vena es río. Un zapato duerme cual caballo muerto, cualquier bala es frío.
Pass Errasouris a commencé sa carrière alors au même moment qu'Annie Leibovitz, au début des années 70. Pas vraiment dans le même contexte, puisqu'elle c'est la dictature de Pinochet. On pourrait dire comme Leibovitz, c'est une portraitiste hors norme, hors pair, mais que ses sujets ne sont là encore pas du tout les mêmes. Errasouris qui a fondé l'association des photographes indépendants. L'exposition d'Arles présente 150 tirages, mais sous le contrôle de Yasmine Youssi, des années 70 à aujourd'hui. Pour lancer la discussion, je dirais que c'est une exposition qui m'a beaucoup impressionné, d'autant que alors là, c'était pour moi une totale découverte et que passé, repassé le long des Cimaises et que j'étais vraiment bouleversé par beaucoup de tendresse, beaucoup d'empathie, beaucoup de, oui, d'humanité. Cette photographe qui magnifie des gens qui sont généralement justement hors champ. Frédéric Bonnet, pour commencer.
Oui, moi je ne connaissais de son travail que cette série à la fois touchante et forcément un peu dérangeante de couples âgés, nus, photographiés nus, de manière très frontale et en même temps de manière assez attendrissante justement, parce que souvent il y a des couples qui sont enlacés, qui se touchent. Alors on sait quand même qu'il y a toujours un tabou et vis-à-vis de la vieillesse et vis-à-vis de la nudité. Donc je ne connaissais que ça et j'ai été très très heureux de voir cette exposition d'une artiste qui dont le travail effectivement effectué sous la dictature de Pinochet n'est pas un travail sur la dictature en elle-même, mais sur les effets de la dictature et au-delà de la dictature, sur les effets de la société sur les corps. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans tout le travail, c'est que ce qui l'intéresse, c'est la marginalisation imposée par les règles comment est-ce que des structures et des corps et des codes vont enserrer les corps. Et le corps est vraiment le donné premier de tout le travail. C'est pas le paysage, c'est pas ce qu'il y a autour, c'est vraiment aller se focaliser sur des personnages, intégrer une proximité, pénétrer le quotidien. Et moi, ce que je trouve très touchant dans ce travail, c'est un rapport à la fois cru et direct et en même temps très très sensible et empathique.
C'est ça qui est très très rare, parce qu'il y a une crudité et en même temps une subtilité, une finesse très très, enfin qui est propre à son travail.
Absolument. Et dans la manière justement dont elle aborde la vieillesse, dont elle aborde la prostitution, dont elle aborde la sexualité, les travestis, il y a vraiment une tentative de coller au sujet, mais en même temps tout en gardant une certaine distance, parce qu'on voit que c'est un positionnement qui a pas l'air évident. Encore une fois, je vais répéter le terme d'empathie. On le voit, on sent, mais en même temps il y a une distance avec le sujet toujours et je crois que c'est un positionnement qui n'est pas facile à atteindre pour le photographe.
Yasmine Youssi sur Paz Errázuriz.
Écoutez, pour moi, ça a été comme vous, hein, une immense découverte. S'il fallait voir une exposition à Arles, je pense que ça serait celle-là. Et j'espère qu'elle tournera et que les gens pourront la découvrir ailleurs.
Parce que là, c'est
vraiment
le jeu de paume hors les murs. Voilà. Ce serait bien que ce soit le jeu de paume aussi dans les murs.
Absolument, absolument.
Ça va peut-être venir.
Vraiment, elle est unique, cette exposition. Moi, ce qui m'a vraiment fascinée là-dedans, pour moi, Paz Errázuriz, c'est vraiment une photographe de la résistance. Jamais de manière frontale. Toujours de biais, c'est ce qui fait la force de ces photos jusqu'aux années 90, jusqu'au début 90, parce que je crois que Pinochet est tombé en 89, enfin si on peut appeler ça tomber. C'est vraiment une photographe de la, oui, voilà, gentiment poussé, le terme exact. C'est vrai que quelle image, si vous y repensez, quelle image on garde des années Pinochet, de la dictature, à part celle volée par des photojournalistes d'opposants parqués dans les stades, on n'a aucune image dans la mémoire collective de ces années de dictature. Ou alors elle y est née avec le casque avant qu'on ne le tue. Finalement, elle nous donne à voir ce que c'était que ce quotidien et ce que c'était ce qu'était la vie en photographiant les marginaux et, comme le disait très justement Frédéric, en photographiant les effets sur des gens qui vont être les premiers à souffrir de cette dictature. Il y a toute cette série, l'une des premières séries qu'elle fait en 79, enfin celle qui nous est donnée à voir, c'est sur les dormeurs, c'est sur les clochards de la ville de Santiago et on les voit. Et en fait, c'est métaphorique aussi, c'est-à-dire c'est ce que la société ne veut pas voir par rapport à la réalité, ce qui en fait une série très très forte. Ce qui m'a aussi fascinée dans cette œuvre, c'est la foultitude de sujets, l'originalité des sujets, comment à chaque fois elle va retrouver une autre idée pour faire œuvre de photographie. Et on dirait qu'elle n'arrête jamais de faire tourner la boîte à idées. Il y a quand la dictature s'arrête, elle continue encore. Il y a eu toute une série, d'autres l'ont faite, mais la sienne est unique aussi sur son fils qui est en train de se transformer, qu'elle photographie tous les mois, au même endroit, pendant, je crois que ça dure 4 ans. On a ça, il y a une série tout aussi originale sur les photos, sur les tombes dans les cimetières, où elle montre comme ça, et c'est une manière aussi de montrer à voir la société. Une photo, une série sur les danseurs des clubs de tango, et c'était... Pour les Chiliens, c'était aussi une manière de s'évader du
liberté,
quotidien.
Le tango.
Voilà, il y a dans un bordel aussi, il y a toute une série dans un bordel, la série sur les travestis est juste unique. Et je trouve qu'elle est elle est presque à mi-chemin entre Un quartier Bresson, Les Humanistes et Diane Arbus. C'est vraiment à mi-chemin pour moi. Elle se trouve là, c'est le regard ni de l'un ni de l'autre, mais elle est...
Et avec un Bounen Goldin.
Ouais. Avec un Bounen
Goldin. Mais ça reste pas Serra Souris. C'est ce nom-là, cette singularité.
C'est vrai que Nan Goldin... Mais c'est encore différent parce que Nan Goldin aussi, elle a commencé en photographiant les travestis qui s'occupaient d'elle quand elle était partie de chez elle à 17 ans. Et il y a toute une série, mais celle de Serra Souris... Moi, je dirais presque est plus forte.
Anaël Pijac, on n'a pas encore entendu.
Je vais dans votre sens, absolument. C'était une grande découverte pour moi aussi, Serra Souris. Vous parliez de résistance, Yasmine. J'étais très frappée par l'extraordinaire délicatesse de ses non-dits, en fait, de la manière dont elle utilise des métaphores. Il est dit à un moment que les militaires ne comprenaient pas ces dormeurs, par exemple. Ce sont des images du sommeil, mais qui évidemment sont des manières d'échapper à la dictature et à ses rudesses terribles. La série des fous amoureux dans les hôpitaux psychiatriques est extraordinaire aussi.
Elle est bouleversante.
Elle est absolument bouleversante. Et vous parliez Yasmine des photographes universalistes, mais
humanistes.
Mais il y a chez Serra Souris quelque chose de très différent, puisque elle s'approche de ses modèles. On a l'impression que vraiment, elle établit un dialogue avec eux.
Il y a une connexion, hein, toujours un regard. Hein.
Absolument. Et une manière de s'installer dans le temps aussi, qui est extrêmement belle, parce que les séries s'étalent sur plusieurs années, et on sent qu'elle s'installe vraiment dans les territoires qu'elle explore, que ce soit les hôpitaux psychiatriques. Il est dit à un moment aussi que ces photos ont fait beaucoup de bien aux médecins et aux patients. On imagine que les regards ont pu changer grâce à ces images. Donc il y a cette délicatesse très grande. Et puis, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup plu, c'est l'humour qu'il y a dans certaines séries. Et je pense à la seule série, je crois, qui n'est pas réalisée au Chili. C'est dans des musées italiens, les statues dont les sexes masculins sont tous cassés, ce que je trouve un discours féministe un peu inattendu, mais assez drôle.
Alors c'est vrai qu'il y a cette...
Une manière d'apporter un peu de légèreté à ces images qui sont quand même très graves.
Oui, qui sont très graves, ce que vous disiez sur le...
leur donne d'autant plus de force.
Sur le lien avec les modèles, il est évident, et c'est pour ça qu'on a tous été bouleversés, je crois que c'est le cas aussi de quelques auditeurs et auditrices qui nous écoutent, Boris Pinault, qui...
Oui, Le Curieux des Arts notamment, chez qui la passion renaît grâce à vos propos ce soir, et qui se souvient justement de cette exposition avec passion.
Oui, on nous dit que c'est l'exposition à voir cette année, que c'est le coup de cœur personnel de tel ou tel, mais je ne sais pas fini, Anaël, juste pour dire que cette connexion, elle se crée parce qu'on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui passe et qui dit « Tiens, je vais faire un tour à l'hôpital psychiatrique, je vais rester une semaine et je vais mitrailler. » Et ce qui est très étonnant. Alors, c'est vrai que ça s'étale sur un temps assez long, qu'il n'y a pas trop de photographies dans cette exposition. Donc, on a vraiment le temps de voir et de oui, mais ça fait partie du plaisir parce que j'aimais bien repasser. Je me dis, mais j'ai déjà vu, mais peut-être pas la Simèze, l'autre côté de la Simèze, et que on se dit, mais comment cette femme a pu se connecter avec autant d'individus, parce qu'on a souvent, Frédéric Bonnet, le sujet photographié qui regarde l'objectif, il y a vraiment, et qui nous regarde du coup, nous, et ça donne une force très particulière aussi à ces images.
Oui, il y a manifestement un travail probablement de très longue haleine qui a été d'aller gagner la confiance des sujets photographiés.
Des sujets aussi différents.
Parce que c'est quand même beaucoup de personnages cassés qui sont abîmés, qui sont là. Et moi, je me posais la question, en fait, en visitant l'exposition, est-ce qu'on traite... au vu du contexte de la dictature et donc de ces personnages là qui sont photographiés, est-ce que on traite d'héroïsme ou d'anti-héroïsme? Et la réponse est tout sauf évidente parce que on pourrait se dire que il y a des attitudes absolument héroïques dans la résistance manifeste qui est manifestée par les sujets photographiés, et en même temps il y a un anti-héroïsme par une sorte non pas de passivité, mais une impression que on fait face à l'histoire et qu'on va laisser couler l'atrocité jusqu'à des temps meilleurs. Et il y a une drôle d'ambiguïté qui se joue là.
Annaëlle Pigeat, vous vouliez ajouter ?
J'allais ajouter un mot sur une série qu'on n'a pas encore évoquée, qui s'appelle Les Nomades de la Mer, qui date de 95, dans laquelle elle photographie un des trois derniers peuples de la Terre de Feu. Et en fait, c'est très troublant parce qu'on voit dans ces images des documents, de toute évidence, et en même temps, il y a une humanité et une profondeur dans ces regards et dans ces expressions qui font totalement disparaître la dimension documentaire qu'on pourrait voir dans ces images au premier regard.
Yasmine aussi.
Tout à l'heure, vous disiez, on parlait des humanistes. La seule chose qu'elle a gardée à mes yeux des humanistes, hein, parce que vraiment, elle n'est pas humaniste, elle n'est pas de l'école des humanistes de l'après-guerre, mais la seule chose qu'elle garde, en fait, des humanistes, c'est une foi en l'homme. C'est-à-dire que même si ces hommes et ces femmes sont cassés, même si c'est des marginaux qui sont broyés par la dictature, il y a toute une série aussi sur le cirque qui est magnifique, toute une série sur les boxeurs.
Les boxeurs, ouais.
Voilà. Vraiment des boxeurs de quartier, des boxeurs de fortune, quoi. Elle garde foi. Vous appelez ça de l'empathie, mais elle continue à garder foi en eux. Il y a jamais un regard misérabiliste, hein, par contre. Et ça, c'est très très fort. C'est très très fort. Et la série, effectivement, sur les Kawaskar, donc ce peuple qui est en train de disparaître. Raymond Depardon aussi avait fait tout un travail sur leur langue à la Fondation Cartier. Elle est très très belle, et les femmes aussi, toute cette série sur les petits métiers des femmes. Donc elle est vraiment dans l'histoire de la photographie, mais c'est pas une suiveuse. Elle reprend des thèmes qui sont propres à toute l'histoire de la photographie, mais ce sont les photos de Passerasuris, pas de quelqu'un d'autre.
Annaëlle Pigeat pour conclure.
Et deux très belles séries aussi sur le regard qui ont une dimension évidemment métaphorique, où elle montre des images d'aveugles et des images de gens qui sont frappés d'une maladie qui ne voit plus qu'en noir et blanc. Là aussi, l'interprétation... les interprétations possibles sont nombreuses.
Et
voilà, peuvent donner lieu à beaucoup de...
Ah Yasmine, post-scriptum.
Non, c'est que cette exposition s'inscrit dans un ensemble d'expositions consacrées à l'Amérique latine.
Focus Amérique latine.
Voilà, il y a plusieurs expositions. Il y en a une autre qui est formidable aussi, que j'engage vraiment les auditeurs à aller voir. C'est la Vuelta consacrée aux photographes de Colombie. J'ai été par contre beaucoup moins séduite beaucoup moins séduite par l'exposition qui s'appelle consacrée à la ville, en fait, à l'espace Van Gogh, à la ville latino, qui était beaucoup trop ambitieuse pour moi, qui partait dans tous les sens et finalement on ne voyait rien.
Alors, je fais un post-scriptum. Frédéric Bonnet, qui est latino-américain de cœur, il y a un conseil en dehors de passer à la Solis dans ce focus.
Non, mais moi justement, à l'inverse de Yasmine, j'ai beaucoup aimé l'exposition sur la ville, que j'ai trouvé très très riche, évidemment multidirectionnelle, mais... constitué exclusivement à partir d'une seule et unique collection. Alors, on imagine que c'est un puissant fond, cette collection. Et il y avait beaucoup de photographes que je connaissais, mais aussi beaucoup de choses que je connaissais pas. Et il y avait des choses vraiment très, très bien.
Bon, voilà pour quelques conseils. Mais on parlait essentiellement, bien sûr, et vous avez entendu notre enthousiasme, notre émotion à parler de Passerasuris. L'exposition s'appelle Une poétique de l'humain. C'est jusqu'au 24 septembre à l'atelier de la mécanique dans le cadre de ce Focus Latina. Très beau livre, plus qu'un catalogue, même édité par l'édition Apertour. Il est en anglais, mais il y a une traduction française des textes qui est téléchargeable sur le site.
Ça, c'est un vrai cadeau.
Du jeu de paume.
Que nous fait le jeu de paume.
C'est un cadeau qui est normal. Voilà. Parce qu'on ne va pas acheter un livre en anglais, il faut qu'on ait les textes en français.
Le cadeau n'est jamais normal,
Arnaud. Eh bien, si, ça devrait le devenir.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette première dispute art plastique de la saison, en restant dans le sud, on reste au chaud à Avignon dans la collection Lambert qui propose notamment, en plus de trois autres expositions, une très grande exposition intitulée « On aime l'art Agnès B. », soit un choix d'Éric Mézil dans la collection de la styliste qui se déroule dans les nombreux espaces de la collection.
Dark un jour, peut-être soir, s'aventure, hors du trottoir. Pas le temps de regarder un éclair de réalité, lucidité. Dark se retrouve renversé, crade et Dark, et le vice versa. Un poison qui le réanima. Et depuis comme Marvel, comme un mutant, crade et Dark, de temps en temps, Dark et crade à chaque instant. Et Fred, oh, il est retourné chez ses parents. Et tu sais la blonde, Isabelle? Ouais, je crois que... Je crois qu'elle est devenue cinglée quelque part du côté de Bali. Et le même plus grand. Ah ouais, celui-là. Et tu te rappelles ton mec? Ah, je veux pas m'en rappeler, mon avis. On s'en fout. Ah mais, enfin, fais gaffe quand même. Regarde, il fait jour. J'aimais pas quand il faisait jour, s'endormir avant. Ah, j'aimais pas ça, c'était flippant. C'était bien mieux avant. Elle dit ça lentement. Moi je sais que le temps n'attend personne pourtant. C'est vrai de temps en temps. Je le dis si seulement. Elle se dit moi aussi. Je suppose que j'ai vieilli, enfant du paradis, du purgatoire aussi. Mais de consolation, personne ne sortira d'ici vivant.
Bon, Daniel Darc, c'est un des héros d'Agnès B dans la salle qui porte ce titre au fil de l'exposition. C'est un de mes héros aussi, donc je voulais qu'on l'entende, Daniel Darc. Nous manque. C'est une des très nombreuses salles, des salles qui sont volontiers thématiques. Alors, un choix de, soyons précis, 350 œuvres, parmi les quelques 5000 de la collection personnelle. D'ailleurs, Marcel Janaudet nous précisait que pour Annie Leibovitz, il y avait marqué 8000 photos dans le dossier de presse. Donc, c'est des 8000, a priori, pour Annie Leibovitz. Là, 350 œuvres de la collection Agnès B. Yasmine aussi.
Et pas de cordelettes.
Il y a plein de choses. Il doit y avoir des cordelettes quelque part, mais
oui. Mais écoutez, moi, je suis une inconditionnelle des accrochages d'Éric Mézil. À chaque fois que je vois ses expositions à la Fondation Lambert en Avignon, je suis totalement séduite, et là, cette fois encore. Si on part du principe qu'exposer une collection, c'est brosser le portrait du collectionneur, je trouve que là, c'est très réussi. Parce qu'il donne à voir une femme curieuse, une pionnière aussi. On est tout de suite plongé en Afrique, en fait, dans l'Afrique, puisque Agnès B. a été l'une des premières à collectionner les artistes africains dans les années 80. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître qui ont vu l'exposition Vuitton, l'exposition Art Afrique à la Fondation Vuitton, on peut avoir l'impression de voir la même chose que ce que montre Pigozzi, mais c'est parce qu'ils ont été, enfin ils ont été les premiers à aller acheter ces artistes quand personne ne s'intéressait à eux. Alors effectivement, on a Chéri Samba, on a Odjé Kéré et ses photos de coiffe, on a les mégalopoles de Bodhisisek Kingsley, mais vraiment eux, ils ont été parmi les premiers à le faire, et ça c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. On voit aussi que c'est quelqu'un de fidèle, Agnès B, quelqu'un de fidèle à un médium, la photographie, qu'elle a beaucoup acheté, qu'elle a beaucoup soutenu, fidèle.
Et
aussi,
elle
n'a
jamais revendu, hein.
Elle n'a jamais revendu.
Elle achète, fidèle, mais elle revend pas.
Fidèle aussi à ses artistes, les artistes qu'elle collectionne. C'est vrai que Massimo Vitali, j'ai pensé à ça tout de suite en voyant Massimo Vitali, qu'on voit beaucoup moins dans les expositions aujourd'hui, et qu'elle continue à mettre en majesté. Fidèle aussi à une période période de la vie, l'adolescence. On voit que ça la fascine toujours, que tout part de là.
Très grande salle,
il y a une salle qui est très très belle. Alors là, je vous ai donné des exemples d'artistes africains qu'on a vus, qu'on connaît maintenant, qu'on arrive à identifier, mais il y a toujours des découvertes aussi à faire. C'est pas parce que c'est vraiment, on voit aussi que c'est quelqu'un qui n'achète pas avec ses oreilles, quoi. Ça c'est flagrant. La mode des artistes africains est passée à un moment. Il y a eu cette vogue, il y a eu cette vague pour les artistes et les photographes japonais. Elle est pas tombée dedans. Elle a continué. Elle continue aujourd'hui. Moi, je connaissais pas le travail d'Amadou Sanogo, qui est un Malien, dont on voit une œuvre ici. Et puis Vincent Michéa, qui fait des photos très très pop, des tableaux, photos avec des portraits de femmes qu'il drape de robes d'or qu'il fait avec des bouillons, enfin avec les, comment ça s'appelle, avec les papiers, les emballages des bouillons cubes. Voilà, on continue à faire des découvertes, et même les artistes les plus connus, je trouve qu'on les voit, on voit des œuvres d'eux qu'on connaît moins, justement, qu'il s'agisse, alors Andy Warhol, on a par exemple des dessins, un seul et même trait, c'est vrai que c'est pas ce qu'on connaît le mieux de Warhol. Il y a des entailles qui sont absolument magnifiques, un tableau de Buraglio, moi je serais bien partie avec. Voilà, c'est des artistes dont auxquels on ne consacre pas forcément des rétrospectives tous les jours, mais là on les redécouvre avec elle.
Annaëlle Péja.
On ne s'en lasse pas de cette collection, on l'a vue déjà à plusieurs reprises dans plusieurs expositions et chaque fois elle est montrée un peu différemment. L'accrochage d'Éric Mézil, il est vrai, est formidable. Il reprend aussi des grands thèmes qui étaient laissés délibérément de côté dans l'exposition qu'il y avait à la Porte Dorée l'hiver dernier, notamment la question du cinéma, avec la présence au sous-sol de grandes salles consacrées à Jonas Mekas, à Harmony Korine, qui va avoir une exposition là au Centre Pompidou.
Et à la Galerie du Jour.
Et à la Galerie du Jour, absolument. Et qu'on ne se lasse pas de cette collection, ça tombe bien, puisque a été annoncé qu'une fondation allait ouvrir dans un quartier de Paris encore non révélé, dévoilé.
C'est pas la Bourse du Commerce, a priori.
Absolument. et avec la volonté, en tout cas, de partager cette collection, de partager ses œuvres. Il y a une vraie générosité qui se dégage de cette exposition. Et c'est, vous parlez d'un portrait, Yasmine, effectivement, c'est le cas. Pardon, on voit une femme qui est à la fois styliste, mais aussi collectionneuse, amateur d'art, qui fait des films elle-même aussi, qui prend des photographies elle-même. Tout ça se mélange. Il y a aussi un joli jeu d'écho avec la figure d'Yvon Lambert, qui est un des maîtres des lieux, évidemment. Enfin, qui est le maître des lieux. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, qui est ce galeriste. On est bien à la collection Lambert. Qui est ce galeriste. Et en fait, les deux, Agnès B. et Yvon Lambert, se connaissent très bien. Il y a eu des échanges d'artistes. Agnès B. a vu Basquiat chez Yvon Lambert. Mais Nan Goldin, si je ne me trompe pas, a commencé à la Galerie du Jour avant de rejoindre les troupes d'Yvon Lambert. Donc ce jeu-là est très joli aussi dans le dialogue entre ces deux personnages.
Frédéric Bonnet, qu'on n'a pas encore entendu sur cette exposition à la collection Lambert.
Moi, elle m'a laissé très partagé, cette exposition.
Je le sentais, je le gardais pour la fin de ce premier tour.
On reconnaît évidemment la sincérité de la démarche, l'éclectisme, ce qui est, je crois, toujours une qualité, la générosité d'Agnès B. Après, on n'est pas forcément tenu d'en faire un panégyrique et de dire que tout est formidable, parce que je crois que ça n'est pas le cas. Ce que j'ai trouvé très très réussi, cette salle adolescence absolument magnifique, vraiment impeccable, où on voit qu'il y a vraiment dans l'œil d'Agnès B, une acuité, un goût pour les corps en tension. Et ça, vraiment, on le voit dans l'accrochage, que je trouve assez impeccable, de cette salle-là. Et on voit que vraiment, là où elle est la plus pertinente, c'est dans la photographie. L'exposition distille de la photographie de manière assez magistrale. Et surtout, à la fin, il y a deux petites salles dans lesquelles il y a notamment un mur qui évoque les plateaux planètes et les univers cosmiques. Il y a une série magnifique de Roman Sislevich. Et la salle d'à côté où il y a Germaine Krull, où il y a la photo de Sarah Bernhardt dans son cercueil. C'est absolument magistral. Ah ouais. Et il y a vraiment des moments de photographie qui sont sublimes. À côté de ça, il y a quand même des choses de qualité nettement moindres. Moi, je pense qu'il y a un problème avec cette salle africaine, parce que j'entends bien qu'on prépare une exposition suffisamment avant pour que évidemment le projet ait été lancé avant l'exposition Vuitton et la collection Pigozzi. Néanmoins, c'est la première salle de l'exposition. Aussi, hein. Je rentre là-dedans, j'ai eu l'impression de me retrouver à la Fondation Vuitton. C'est les mêmes artistes, quasiment les mêmes œuvres. Et je ne comprends pas pourquoi, notamment s'agissant par exemple d'un photographe comme Malik Sidi Bey, dont manifestement elle a beaucoup d'œuvres, et notamment il y a à la fin de la salle un magnifique portrait du début des années 60, super beau. Pourquoi est-ce que les autres photos sont systématiquement toujours les mêmes clichés qu'on voit dans toutes les expos qui traitent d'Afrique et qui traitent de photographie africaine? Donc voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu ajuster le tir. Il y a effectivement des choses plus intéressantes comme Amadou Sanogo qui a un très bon peintre.
William Wilson,
oui, tout à fait. Vrai que globalement, on avait dans cette salle-là, moi j'ai eu l'impression de me retrouver chez Vuitton. Et puis une autre chose qui m'a vraiment, vraiment dérangé, c'est alors son engagement aussi pour le street art, pourquoi pas. Attaquer une salle qui s'intitule Peinture avec John Wan, je ne sais plus quelle autre horreur, c'est un peu difficile, surtout qu'il y a quand même une antinomie, me semble-t-il, entre le street art et les artistes donc dits street qui font de la peinture sur toile. Je sais pas, j'y vois comme un problème. Donc attaquer une salle qui s'intitule et la peinture avec ce genre d'œuvre, ça me pose un souci. Même si je comprends très bien que chez Agnès B, il y a un goût et un intérêt pour le langage vernaculaire. Quand elle va voir Brassailles, il y a des photographies magnifiques de Brassailles. Il y a une magnifique palissade de Raymond Hens. Je comprends bien que elle relie ça à du street art. Malheureusement, je trouve que les pièces en question sont quand même assez affligeantes à regarder. Et encore une fois, j'ai un problème avec le street art qui se rend commercial d'un coup en se montant en châssis sur toile.
Réaction à la réaction. Annel, pour commencer, puis Yasmine.
C'est pas grave.
Rien n'est grave dans l'absolu.
On parle pas de choses dramatiques absolument ici.
Je trouve dans toutes ces œuvres, dans le rassemblement de toutes ces œuvres, et chaque fois quelque chose de très engagé et de très sentimental, très assumé. Effectivement, il y a des œuvres qui sont très connues, il y a des œuvres qui le sont beaucoup moins, il y a des œuvres qui sont de très grande qualité, il y a des œuvres qui sont de moindre qualité.
La question n'est pas d'être connue ou pas connue.
Non, j'entends bien. Mais la question se pose quand même aussi. C'est aussi une question qui se pose.
Non, parce que d'être connu ou pas, ça n'est pas un gage de qualité.
Certes, mais la question se pose quand même. Il y a des artistes totalement inconnus qu'elle a trouvés sur Internet. Il y en a peu, mais il y en a. Par exemple, moi, j'étais très heureuse de voir un portrait couvert de pois de Nicolas Dieterlé. Qui est un poète qui a passé son enfance au Ghana, qui se suicide en 2000, qui est dans un petit coin comme ça. Il y a une œuvre de Douglas Gordon qui est aussi très discrètement montrée, des mains enlacées. Il y a un dialogue avec les...
Un petit recoin, là.
Un tout petit recoin, il ne faut pas la rater. Mais c'est ça qui est bien.
C'est très beau, en fait,
il y a dans cette à la fois engagement et dans la manière d'assumer un côté très autobiographique de la collection et sentimentale, quelque chose de formidable.
Ouais, moi, c'est le sentiment et c'est... une forme d'empathie. Elle a travaillé chez Antaille, chez Fournier, Agnès B. Elle est en empathie avec les artistes et les œuvres qu'elle collectionne.
Et là, c'est un portrait d'elle. Moi non plus, le street art, franchement, c'est vraiment pas mon truc.
Mais en même temps,
elle est comme ça. Elle met pas de hiérarchie et ça dit aussi ce qu'elle est. Maintenant, par rapport au fait qu'on voit la même chose à Paris, nous on a la chance de pouvoir voyager un peu partout et de pouvoir voir toutes ces expositions. Je suis pas sûre que tous les gens qui vont à Avignon soient montés à Paris. Je trouve que pour eux aussi, c'est très bien de pouvoir voir ces œuvres-là.
Là, s'agissant de la salle africaine, c'est pas seulement Paris. Je veux dire, ces œuvres sont archi connues. Je veux dire, déjà dans l'expo Pigozzi, elles étaient archi connues et c'était justement un des problèmes de l'exposition.
Pour nous, Frédéric, pas forcément pour
elles ont fait toutes les expositions africaines.
Il y a toujours quelqu'un pour qui ce sera la
première fois. Ils ont toujours montré les maquettes de King Ellis, ont toujours montré les brûlés bois brés.
Enfin, c'est archi connu. C'est pas tout le monde.
Ça a été montré dans toutes les expos africaines.
Oui, mais, pas tout le monde qui va dans les expos africaines. Est-ce qu'il y a eu des expositions africaines comme ça à Avignon, dans le sud? Je suis pas sûre. Alors là, vraiment, pour le coup, je trouve.
Descendez
que...
à Marseille.
Hein, Bon,
on s'arrêtera là-dessus, sur ce point de désaccord. Ça tombe bien pour une dispute. On aime l'art. Ça, on est d'accord là-dessus ou pas?
Oui.
Bon, ben voilà. C'est le titre de l'exposition. Ce choix d'Éric Mézil dans les œuvres de la collection Agnès B. C'est jusqu'au 5 novembre à la collection Lambert, à Avignon. Et avant de conclure tout à fait, d'abord, il faut que je rassure Capybara qui demande qui chantait cette belle chanson qu'on entendait avant passer à la souris. C'est Patricio Castiglione. Voilà, vous n'avez plus qu'à chercher sur votre moteur de recherche. Le jeu de la dispute, on commence par un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse. Grégoire Di Fiore va nous rappeler cette question.
Quel artiste exposé au Macval dans le cadre de l'exposition Sans réserve a également réalisé le film Ni le ciel, ni la terre?
Et la réponse est...
Clément Cogitor.
Cogitor, ça c'est, on voit le latiniste que vous êtes, on en reparlera très bientôt de Clément Cogitor, mais on peut l'appeler Cogitor, moi je suis d'accord avec vous. Ce soir on fait gagner des places de cinéma pour le film Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa, qui est sorti aujourd'hui. La question, Grégoire?
Dans quel pays d'Afrique est situé le mont Moulanges qui apparaît dans le film?
Votre réponse avec vos coordonnées postales, envoyez à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations sur l'émission, bien sûr, sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature. En compagnie d'Elisabeth Philippe, Laurent Georgesco et Laurent Nunez, nous parlerons d'Innocence d'Eva Ionesco, l'invention des corps de Pierre Ducrozet, la chambre des époux d'Éric Reynard. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant.